d'emploi. Mode d'emploi.
Bienvenue sur Mode d'emploi, le format secret de fabrication tous les troisièmes vendredis de chaque mois, 20h30 sur 106.3 FM et rfpp.net. Voilà, donc aujourd'hui, je suis à la fois très heureux et très malheureux. Votre camarade a malheureusement eu une mésaventure qui lui a amputé temporairement l'usage de la main droite. Et donc, je suis obligé de me débrouiller avec les moyens du bord pour vous fournir cette émission. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai voulu, car nous sommes le 19 mars 1871, nous sommes le 19 mars 2021, et il y a 150 ans jour pour jour, c'était le 19 mars 1871, et donc le lendemain de la tentative ratée de Thiers pour mettre la main sur les canons parisiens, qui a donné lieu à un soulèvement de la garde nationale, organisé, fédéré déjà, et qui a pu prendre le contrôle de Paris. Nous sommes donc, on va dire, aujourd'hui le lendemain de ce jour fatidique. Et donc le lendemain du 18 mars, les journaux tentent de reparaître pour faire état de ce qui s'est passé la veille. Et nous allons vous lire quelques extraits de journaux du jour et du lendemain, parce que tout n'était pas possible le jour même. Et les premiers commentaires à chaud, donc livrés par votre humble collaborateur, et qui, on va essayer de voir un peu comment la Commune a pu se réveiller et décider de se mettre en place. Voilà, un peu, ce sera ça le chapitre de ce mois-ci. Le mois prochain, nous ferons les lectures, là encore, des journaux du jour. Et le mois suivant, hélas, avec probablement de très mauvaises nouvelles, car nous approcherons de la fin. Mais pendant les 3 mois qui viennent, nous allons essayer, chaque émission, de vous faire vivre un petit peu au rythme de la Commune telle qu'elle se déroule. Voilà. Donc, c'est parti pour une. Et bien entendu, nous clôturerons l'émission par un rappel sur les luttes en cours, car toute lutte a une commune potentielle en elle, et nous allons voir comment nous pouvons transposer cette expérience vers les luttes de demain et d'aujourd'hui. Alors, un petit premier morceau de musique pour célébrer avec vous le soulèvement de la garde nationale.
Jeunesse héroïque, arme ton flagon pour la.
Jeunesse héroïque, arme ton flagon pour la République.
En avant,
mon blanc.
Et voilà, c'était le Moblot d'Eugène Potier. Alors, Eugène Potier, le bien connu auteur du Temps des cerises. Qui antidate la Commune, puisqu'il était publié avant, mais qui était sur toutes les lèvres lors des barricades, c'était aussi un témoin de son temps. Hein. L'appel au Moblot, c'est l'appel à rejoindre les bataillons mobiles de la garde nationale pour repousser l'envahisseur. Et donc la mobilisation qui avait eu lieu pendant tout le siège de Paris avait donc armé, entraîné et enrégimenté, en fait, la garde mobile, la partie la plus active, et qui était de celles qui s'étaient fédérées justement sous l'égide de la Fédération nationale de la Garde nationale, la Fédération de la Garde nationale, pardon, qui a été une part extrêmement active dans la contre-attaque le 18 contre les Versaillais. Et donc, dès le lendemain, tous les journaux proscrits, comme Le Cri du Peuple, comme Le Père Duchesne, tentent de reparaître avec des fortunes diverses. Alors, Le Cri du Peuple ne peut reparaître que le surlendemain. Donc, nous vous lirons l'article du 20 mars. Mais l'équipe, sans attendre, se réunit dès le soir pour publier le lendemain, donc aujourd'hui, 19 mars, un premier appel qui est donc l'unique numéro publié du drapeau, l'unique numéro qui nous est resté du drapeau, qui était le nom sous lequel le Cri du Peuple publiait clandestinement. Et donc, voilà ce que le drapeau a à nous dire donc ce jour-là. Paris, 18 mars 1871. Le drapeau noir abritera de ses plis les mutilés et les proscrits. Liés à la hampe, ils crieront jusqu'à la mort. Quelques furieux iront donnant des coups de baïonnette dans les voiles, mais parce que 6 voiles sont crevées, la tempête n'est pas vaincue. La sombre bannière claque toujours au sommet du grand mât et les nuages rouges pèsent sur l'horizon. Douleur sans nom. Les boulets prussiens ont fait dans le vaisseau des trous à laisser passer tout l'honneur de la patrie. L'équipage a été affamé, lardé, fouetté par l'orgueil ennemi. Il reste un radeau qui flotte entre des roches, sous le soleil méchant. Et voilà qu'un capitaine d'armes fait jeter, ficeler et bâillonner dans l'entrepont une escouade de matelots. Sous les cordes et sous le baillon, les matelots se soulevèrent encore. Ils demandent grâce pour la patrie et réclament la fraternité pendant le temps de la tempête. « Silence !» dit la voix d'un soldat. « Silence !» Mais nous pouvions signaler des écueils, faire reculer l'orage. Ce n'est pas trop de tous à la manœuvre. « Silence !» Nous parlerons jusqu'à la fin. Mais si nous succombons à la tâche, le péril sera encore debout et notre espérance toujours vivante. Vous ne ferez pas taire le vent et vous n'aveuglerez pas notre étoile. La rédaction. Alors ça, c'était la rédaction donc du Cri du Peuple rassemblée sous le drapeau. Et donc, ce premier appel sera suivi très rapidement donc, d'une nouvelle reprise de publication dès le lendemain. Et donc, nous allons utiliser une petite machine à dérouler le temps et dès la suite de cette grande proclamation de la Commune, nous pourrons aborder les journaux du 20 mars.
Français, ne soyons plus argent, sans souverain, le peuple aura l'humain.
Alors, vous aurez noté comme moi que cette version de la Marseillaise était un peu particulière, c'est parce que c'était la Marseillaise de la Commune. Et donc les paroles font directement référence au soulèvement de la garde nationale et au sens républicain que ce soulèvement a pris aux yeux des Parisiens. Voilà. Et d'ailleurs, le projet même de Commune est un projet de régénération de toute la nation par les pouvoirs locaux, qui se précisera au cours de l'existence de la Commune. Il est faux de dire que les communards n'avaient pas de projet historique. Alors juste, je vais passer la parole à Claude parce que l'extrait est comme l'extrait précédent et comme les suivants est tiré d'un excellent disque que Claude va nous présenter tout de suite.
Oui, alors ce disque, c'est en fait un double album 30 cm, c'était encore du vinyle à l'époque, qui a été édité pour le centenaire de la Commune, c'est-à-dire en 1971. Voilà. Et c'est sorti sous la marque Disque AZ. Il y a à l'intérieur, donc, comme interprètes principaux, Mouloudji, Francesca Soléville, Armand Mestral. Et puis, au point de vue chœur et orchestre, c'est les octaves et le madrigal de l'Île-de-France.
Ben voilà, c'est un document. Comme moi, je suis en train de vous lire un document qui a été publié. En fait, grosso modo, ma base de données, c'est une excellente revue de toute la presse de l'époque, publiée par la 4e Internationale, en fait, ils ont repris une litanie, plus de 300 journaux de l'époque, et donc ce qui me permet de vous les lire à l'écran. Voilà. Et donc notre prochain numéro, on va dire, est l'article, l'éditorial du Cri du Peuple du 20 mars 1871, 150 ans moins un jour, puisque ce serait, de notre point de vue, l'édito du lendemain. Il n'a pas pu paraître, donc là, on a vu qu'il est paru sous le nom du Drapeau la veille, pour commenter immédiatement les événements. Et là, il publie son premier grand éditorial du nouveau Cri du Peuple, donc le numéro 19, qui paraît le 20 mars 1871. Il commence par une proclamation de la rédaction au peuple. Au peuple de Paris, une nouvelle révolution pacifique et fière vient de s'accomplir. La garde nationale, atteinte dans sa dignité et provoquée par le gouvernement de messieurs Thiers, Favre et Picard, qui avaient préparé leur tentative par la suppression de 6 journaux, a répondu aux provocations, aux calomnies et aux mensonges par la déchéance et le mépris. La troupe que les généraux de l'Empire avaient menée de défaite en défaite jusqu'à l'humiliation suprême, a généreusement refusé de tirer sur les citoyens qui défendaient leurs droits et a fraternisé avec le peuple, contre lequel on avait formé le dessein criminel de le faire combattre. Paris s'est reconquis. Il est maintenant libre et souverain, maître de ses destinées et de son avenir. S'il sait prendre aujourd'hui même une résolution énergique et sage à la fois, le triomphe de la République est assuré. Et la date du 20 mars sera l'une des plus grandes de l'histoire. Si la population parisienne s'écoutait que ses sentiments d'indignation contre ceux qui viennent de troubler si profondément l'ordre et de menacer la cité des malheurs de la guerre civile, elle proclamerait la déchéance du gouvernement indigne, dont les derniers actes mériteraient la mise en accusation et le plus sévère châtiment. Mais si Paris a le droit absolu de disposer de lui-même, il ne peut disposer de la France. Il ne peut faire plus que ce qu'il a fait, lui donner un grand exemple. Il peut réclamer, conquérir et défendre son autonomie communale, complète, sa liberté entière. Mais il doit, par respect pour la justice, le droit national et pour sa propre sécurité, laisser le reste de la France agir à sa guise. Pour que la révolution qui vient de s'accomplir dans Paris, avec tant de spontanéité, d'ensemble, de magnanimité et d'espérance, soit consacrée par le temps et plus tard par l'adhésion de tout ce qu'il y a dans le monde d'hommes libres, honnêtes et éclairés, il faut à cette révolution se borner à Paris. Lui seul en a le courage et le péril, lui seul doit en bénéficier. Paris doit donc se déclarer ville libre, commune affranchie, cité républicaine, se gouvernant elle-même et réalisant dans la mesure du possible la théorie du gouvernement direct appliquée dans la République helvétique. Il doit prendre immédiatement certaines mesures d'urgence pour garantir les franchises dans l'avenir et pour en même temps rétablir au plus vite dans le présent l'ordre nécessaire à une cité industrielle, commerciale, travailleuse, pour garantir le fonctionnement normal et régulier des services publics, pour assurer au mieux les intérêts généraux, des relations sérieuses avec ce qui sera le gouvernement de la France, comme avec les autres villes libres qui voudraient imiter l'exemple de Paris. Ces mesures sont celles-ci. Convocation immédiate des municipalités parisiennes existantes en conseil et formant une commune de Paris provisoire chargée de veiller aux choses d'administration publique journalière et de présider aux élections municipales. Adjonction de la députation de Paris et du comité central de la garde nationale à cette commission municipale. Convocation des électeurs pour le 25 mars à l'effet d'établir, par arrondissement, 5 administrateurs municipaux chargés de l'administration de l'arrondissement dans lequel ils auront été élus et se réunissant au conseil communal pour délibérer sur les intérêts généraux de la ville. Abolition immédiate de la préfecture de police et transfert aux municipalités parisiennes de ses attributions exercées par le comité central de la garde nationale. Élection de la garde nationale de son état-major général. Suppression du commandement supérieur de la garde nationale, qui ne pourra être rétabli qu'en temps de guerre et qui devra être laissé à l'élection. Organisation de la magistrature élective pour la ville de Paris. Acceptation des conditions de paix et entente de la commission municipale avec le gouvernement de la France pour l'exécution de ces conditions. Convocation rapide et par arrondissement de tous les citoyens pouvant justifier de leur qualité de commerçants et de comptables pour la formation d'un syndicat commercial chargé de présenter un nouveau projet de loi sur les échéances. Envoi immédiat de 5 délégués de la commission municipale et de la députation parisienne près des membres du pouvoir exécutif, chargés de traiter avec eux sur les bases qui viennent d'être indiquées ci-dessus et qui doivent entraîner la reconnaissance officielle de Paris ville libre par le gouvernement français. Enfin, envoi de 5 autres délégués par près des plénipotentiaires prussiens afin de leur donner toutes les garanties sur l'exécution du traité de paix. Telles sont les mesures qu'il faut prendre immédiatement, sous peine de tomber dans le gâchis, de rouler dans l'abîme. Il nous faut éviter un retour d'hostilité et ne pas fournir le prétexte à l'armée prussienne dont le gouvernement de M. Thiers, Favre et Picard a fait son allié. Il y va du salut de la cité, de l'avenir de la révolution, le cri du peuple.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille pour palais et sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
C'était donc La Canaille, cette célèbre chanson qui elle aussi en fait soulève, réfère à ce soulèvement. Et mais nous allons y grainer encore d'autres positions. Car ce qui est intéressant là dans l'article que je viens de vous lire du Cri du Peuple, c'est que c'est une des positions qui court dans la rue parisienne. À ce moment-là, ce n'est pas le seul. Le Cri du Peuple aura une position très particulière, en fait, pendant toute la Commune. C'est un journal républicain radical de gauche, on va dire, et qui jouera un véritable rôle, par contre, d'information, car ces journalistes iront partout dans la Commune, au front, à l'arrière, rapporter une opinion souvent très arrêtée sur énormément d'initiatives et l'état de la situation. On vous a passé La Canaille, car il y a aussi un courant plus hébertiste, on va dire, le Cri du Peuple est d'une certaine manière hébertiste, mais franchement hébertiste et franchement sans culotte, qui est le courant de La Canaille, en fait, qui est le courant, La Canaille telle que les nomment les Versaillais, en fait, mais qui est le courant du petit peuple et que cherche à exprimer le journal le Père Duchesne, qui est lui-même donc une réinvention, donc une première résurrection du Père Duchesne de la grande révolution française, et qui cherche à refléter ce même type de positionnement au sein de la Commune. Et là, donc, nous assistons à sa deuxième résurrection, puisque lui aussi avait été interdit par le nouveau gouvernement. Et là, il put republier, daté du 30 Ventose en 79, car le Père Duchesne ne se datera jamais que par le calendrier révolutionnaire, donc le 30 Ventose de l'an 79, c'est donc le 20 mars, c'est le 20 mars 1871. Et donc, un petit calcul nous fait penser que nous sommes logiquement aujourd'hui le 29 Ventose de l'an 223. 240 peut-être. Je ne sais plus. Enfin, vous voyez le calcul. En tout cas, ce jour-ci, le 30 Ventose de l'an 79, le père de Duchesne laisse éclater sa grande joie. D'ailleurs, j'ai appelé ce morceau le GJ du père Duchesne, GJ étant les initiales de Gilet jaune, et il y a vraiment une continuité entre Gilet jaune et père Duchesne, comme vous pourrez le constater tout de suite. En attendant, écoutons la grande joie du père Duchesne. La grande joie du père Duchesne de pouvoir enfin causer des affaires de la nation avec les bons patriotes qui ont chassé tous ces gens foutres de l'hôtel de ville. Ses bons avis aux citoyens sur les élections de la Commune de Paris, avec ses grands remerciements à la garde nationale et à l'armée qui, par leur patriotisme, ont su éviter la guerre civile. Ah, le père Duchesne a bougrement raison d'être content aujourd'hui. Et foutre, c'est avec une grande satisfaction qu'il recommence à causer avec ses bons amis les patriotes, qui, en foutant à la porte tous les capitulaires, qui voulaient encore trahir la République, lui ont rouvert la bouche en même temps qu'ils ont sauvé la nation. Ah, quelle grande joie ça a été pour lui, le vieux père Duchesne, de voir qu'il existait encore dans la bonne ville de Paris des citoyens qui n'ont pas voulu voir la France avilie et la République morte et qui ont ressuscité l'une et l'autre dans cette belle journée du 18 mars. Et foutre, il n'a pas fallu avoir froid aux yeux pour démasquer toutes ces canailles qui voulaient l'émeute, qui avaient résolu d'envelopper encore une fois, pour la mettre au tombeau, la République dans le linceul sanglant de l'insurrection. L'insurrection, eh bien oui, mes bons patriotes, nous l'avons faite, nous, l'insurrection à notre tour. Et elle a été belle, foutre. et vous avez crânement été foutu dedans quand vous avez vu nos braves amis de l'armée vous tendre la main, comme des frères qui ont supporté les mêmes malheurs que vous aviez trahis tous ensemble. Ah, vous avez capitulé, vous avez poussé la France, votre belle patrie, sous les sabots des chevaux de Guillaume. Et vous aviez la bonhomie de croire qu'on allait encore vous adresser des remerciements et que les bons patriotes allaient se foutre des coups de fusil pour la plus grande gloire d'un prétendant ou pour l'ambition mesquine de ce petit foutriquet comique de tiers. Non, mais j'en foutre. Vous avez voulu l'émeute, vous avez provoqué la guerre civile et au lieu du bruit de la fusillade que vous guettiez tous, ceux que vous traitiez de pillards, de communistes, vous ont répondu « Nous voulons vivre républicains et libres. Vive la République !» Pauvre roquet qui comptiez sur Vinoy ou sur Aurel, de sacrés gens foutres, que nous connaissions bien comme des traîtres et que le père Duchesne avait déjà démasqué aux bons patriotes. « Vive la République !» nous avons tous répondu. Et le soir, nous l'asseyons à l'hôtel de ville. Et maintenant que tout est fini, que nous l'avons bien sauvé et que vous êtes bien foutus, il n'est plus question que d'une chose, c'est de faire ces braves élections qui vont rendre aux patriotes de Paris leur municipalité. Oh, les gens foutront beau y faire. Il faut que la ville se gouverne elle-même, par des hommes qu'elle a choisis, par les bons bougres où vit son âme, où brûle son esprit, où s'assied sa justice. Il faut que l'administration de Paris soit la résultante des forces vives de la population. Et les forces vives de la population de Paris, ce sont les battements de ton cœur aux révolutions que je salue dans la liberté de mon amour et de ma certitude. Enfin, nous allons la voir, la municipalité de Paris. Je dis la municipalité de Paris, c'est-à-dire la commune de Paris. Attendu que municipalité ou commune sont absolument la même chose et que l'on ne sait pas assez, c'est ce qui fait les bons bougres de la bourgeoisie et des boutiquiers ont eu peur au 31 octobre et au 22 janvier. Sans savoir pourquoi de notre chère commune. Alors, quel seul pouvait nous délivrer des sacrés gens foutres de Prussiens? Est-ce que c'est, oh mes bons bougres, que de ne pas savoir juste où et de quoi l'on discute? Car tout le mal vient de ces malentendus. Et la cause de nos erreurs et de nos disputes vient que nous ne sommes pas d'accord sur les définitions. C'est Pascal qui a dit ça, mes bons bougres, un sacré gens foutre de calotin, qui a écrit de drôles de choses dans sa bougresse de vie et dont les jésuites ne se vantent pas, quoi qu'il les vaille bien. Oh, donc, patriotes, savez-vous ce qu'il faut en ce moment? Il faut nous comprendre bien. Il faut nous comprendre parfaitement. Il faut unir nos forces, concentrer nos efforts, masser nos volontés pour obtenir enfin un avantage décisif dans le combat suprême qui va s'engager entre les patriotes qui se tuent à travailler pour nourrir des gens foutres qui ne foutent rien et les capitalistes dont l'opulence s'éternise dans l'inertie. Le père Duchesne appelle à son aide la commune. Vive le peuple, vive les patriotes, vive les bons bougres. Ah, le père Duchesne a été bougrement content en apprenant que la ville allait enfin avoir pour parler en son nom des hommes et non des gens foutres de traîtres, d'imbéciles et de perroquets. Enfin, le peuple aura quelqu'un qui parlera pour lui et qui fera ses affaires, ou foutre, nous verrons bien. Et sacré tonnerre, le moment n'est pas éloigné où nous allons savoir si nous sommes à tout jamais condamnés à végéter, comme le disait le manifeste bougrement patriotique de l'International que le père Duchesne aime de tout son cœur, dans ces régions proscrites où toute revendication est tenue pour une révolte. Allons, allons, venez ici, j'en foutre de l'hôtel de ville. Amène ton ventre, Picard, approche ton nez, Ferry, montre-nous ta sacrée gueule de capitulaire, mauvais bougre de Fabre. Que le Pierre Duchesne vous crie, malgré vos gens foutres de conseils de guerre et vos guillotines en permanence. Tas d'émeutiers que vous êtes, vive la commune, foutre!
Je suis franc et sans souci, ma foi je m'en flatte. Le drapeau que j'ai choisi est rouge et carré du bon vin. Vive la commune enfant, vive la commune, vive la commune enfant, vive la commune.
Voilà, chers camarades, chers auditeurs, vous êtes sur Secret de Fabrication, le format de mode d'emploi mensuel. Donc tous les troisièmes vendredis de chaque mois, 20h30, sur 106.3 FM, Radio Fréquence Paris Pluriel, ou www.rfpp.net. Donc voilà, c'était notre séquence du jour sur la presse des 19 et 20 mars 1871, il y a 150 ans. Et nous avons, et comme nous l'avons dit, bah, nous traitons aussi dans cette émission de toutes les luttes actuelles, car comme je disais, dans chaque lutte, dans chaque cause, il y a en germe l'auto-organisation et au final la commune qui nous appelle. Et là, nous allons traiter des mobilisations du moment, non pas la fédération de la garde nationale, ça viendra, mais déjà une fédération, déjà des fédérations de chômeurs et précaires qui organisent leur lutte et qui interviennent. Notamment sur les grandes manifestations contre la répression, contre les pleins pouvoirs à la police, tels que nous allons avoir à en mener dès demain. Voilà, donc nous allons commencer par une introduction où nous allons parler d'un rassemblement qui a eu lieu le 12 mars, où parlait notre camarade Odile et d'autres camarades, où nous avons pu avoir donc des sons grâce à Odile sur ce rassemblement.
À présent, on va lire le communiqué. Le communiqué du collectif Les Matermitantes du 11 mars. Réunion annulée. Mépris affiché. Continuez à occuper. Le 11 janvier 2021, il y a deux mois, nous avons établi un document d'état des lieux et d'analyse de la situation de 13 pages qui a été envoyé à la DSS, Direction de la Sécurité sociale, et la DGCA, deux instances aux côtés de la CGT Spectacle. Nous y avons joint le 28 janvier une liste d'une douzaine d'exemples réels, concrets et représentatifs venant appuyer cet état des lieux. Cette première réunion a eu lieu le 29 janvier 2021 en visioconférence. Nous avons exposé quelle était notre urgence. La DSS a répondu très partiellement, notamment avec un article du Code de la Sécurité sociale qui ne correspondait pas à notre situation de salarié discontinu en cours d'indemnisation chômage. Elle nous a invités à dresser une liste de questions plus précises auxquelles elle s'est engagée à répondre d'ici la fin du mois de février. Le 4 février 2021, nous avons donc transmis une liste de questions détaillées et techniques à la direction de la Sécurité sociale. Nous attendions des réponses concordées. Maintien de droit, prise en compte de l'activité partielle, prise en compte des congés et autres réponses urgentes. Des réponses dont dépendent de nombreux dossiers de congés maternité ou maladie en suspens. Le 11 mars 2021, ce jour, soit plus d'un mois après l'envoi de nos questions, nous devions nous réunir avec les mêmes partenaires à 9h30. Nous apprenons à 9h20 que la réunion est annulée en raison d'une autre réunion organisée jeudi matin par Monsieur le Premier ministre en présence de Madame la ministre de la Culture et que notre réunion est repoussée à la semaine prochaine. Quel signal! Alors qu'hier encore, nous étions présentes au colloque sur le thème des congés maternité organisé par la délégation du droit des femmes, pendant lequel l'urgence de la situation de l'accès à l'indemnisation maternité et maladie pendant la crise sanitaire a été complètement oubliée. Malgré la présence de responsables de la direction de la sécurité sociale dont nous attendons précisément toujours des réponses. Nous ne nous satisfaisons pas d'arrangements à la marge. Nous exigeons de réelles avancées légales sur le maintien des droits au congé maternité et maladie des chômeurs indemnisés. Nous exigeons des réponses immédiates aux questions techniques que nous avons posées. Ces réponses que nous attendons fort précisément font précisément partie des revendications portées par les syndicats et les collectifs qui occupent actuellement les théâtres. C'est pourquoi nous, collectif Les Matermitantes, appelons tous les salariés à emploi discontinu, les artistes auteurs et les indépendants, aussi impactés par la crise sanitaire dans leur accès au congé maternité et congé des maladies indemnisées, à occuper partout où ils le peuvent. ce que nous le défendons pour toutes et tous.
Voilà, donc c'était Odile pour le, non, c'était le collectif des Matermitantes. Donc alors nous avons reçu le collectif des Matermitantes dans cette émission, dans Secret de Fabrication, il y a plus d'un an, après la victoire contre la convention UNEDIC que les intermittents avaient réussi à casser en totalité, qui était déjà une bonne victoire, qui avait repoussé encore une fois donc la réforme de l'assurance chômage, qui est encore devant nous. Et donc jamais les mobilisations ne s'arrêtent, mais je voulais revenir sur un point commun entre des collectifs comme les Matermitantes ou d'autres collectifs d'entraide et de soutien et la Garde nationale. Car la Fédération de la Garde nationale, à l'origine, était une fédération de soutien de famille. Elle avait également ce rôle qu'elle avait hérité des collectifs de vigilance locaux qui s'étaient constitués pendant le siège. Et donc, il ne faut jamais oublier que déjà s'occuper les uns des autres, se protéger les uns des autres et penser à notre bien-être social, c'est déjà se fédérer et c'est déjà voir plus loin que simplement les problèmes du moment. Alors, les problèmes du moment, ça va être effectivement les problèmes que ça peut être toutes sortes de problèmes. Nous allons parler bientôt donc de la suite, qui est celle de la manif de demain. En attendant, dans l'espoir de toutes ces révolutions passées et à venir, nous vous passons un petit morceau aisément reconnaissable, reconnaissable parmi tous, que vous apprécierez sûrement.
Must a man walk down before you call him a man? How
Donc voilà, c'était un souvenir de tout ce qui s'est passé et en anticipant tout ce qui se passera. Donc, nous étions donc lors du précédent son donc au théâtre de l'Odéon lors de ce rassemblement. Je signale que les théâtres aujourd'hui sont un lieu de rassemblement et de mobilisation un peu partout en France. De manière continue, ce qui fait que si vous voulez prêter main forte, vous pouvez vous rendre sur des théâtres occupés à Paris et partout. C'est aussi une manière de contribuer. Une autre manière de contribuer est bien entendu de préparer donc les mobilisations comme celle de demain. Et nous allons donc passer une autre intervention lors de du rassemblement du 12 mars qui appelait déjà, qui annonçait la manif qui aura lieu demain.
Philippe, de la PIS.
Merci, bonjour. D'abord, moi je tiendrais à saluer la lutte des intermittents qui fait tâche. On voit bien qu'il y a plusieurs théâtres qui sont occupés aujourd'hui et c'est exemplaire au moment où la crise sanitaire elle permet de réduire considérablement, en tout cas de tenter de réduire les libertés collectives et individuelles. Donc déjà, c'est vraiment une chose importante que cette bataille soit menée. Ce qui est vraiment important aussi, c'est que les intermittents, ils se battent bien sûr pour leur statut, puisqu'ils ont été empêchés, il faut bien qu'ils aient une année blanche, c'est logique, mais ils se battent aussi pour l'annulation définitive et totale de la nouvelle convention d'assurance chômage. Et ça, c'est important. Parce qu'il n'y a pas de corporatisme là-dedans, il y a ce que tout le monde revendique, c'est-à-dire des convergences, ça c'en est une véritable. Parce que cette nouvelle convention d'assurance chômage, dans les faits, alors que déjà il y a 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés, ça va en exclure à la louche, selon l'UNEDIC, 850 000. Et pour les autres, ça va être une perte de l'indemnisation d'environ 40%. C'est-à-dire qu'on va encore tendre à appauvrir l'ensemble de la population. Bien sûr, on commence toujours par les plus fragiles et les plus précaires, mais ça va toucher tout le monde. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de solidarité, il s'agit de cohésion. Il faut qu'on soit ensemble, parce que quand on tape sur les plus faibles, il faut savoir que le lendemain ou le surlendemain, ceux qui sont encore à temps protégés ne le seront plus et qu'on tapera à leur tour sur eux. Donc je crois vraiment que cette convergence-là, elle est importante. Et puis vous savez, dans le réel, dans le vécu, dans le quotidien, c'est pas la même chose que de cotiser 6 mois dans les 28 derniers mois ou 4 mois dans les 24 derniers mois pour être indemnisé. Ce que ça change, c'est que dans un cas, il faut avoir travaillé un jour sur 7, et dans l'autre, il faut avoir travaillé un jour sur 4. Et avec la façon dont l'emploi est traité aujourd'hui, travailler un jour sur 4, ça va être pour beaucoup pari impossible. Ça veut dire qu'il y a encore des centaines de milliers de salariés qui vont cotiser, mais qui n'auront le droit à aucune indemnité. Donc voilà, moi je suis de ceux qui vont participer à la manifestation de samedi prochain. Ça va être une manifestation qui sera importante si vous en êtes, avec 3 objectifs, afin que les vrais coupables soient désignés. On part du MEDEF, on passe au ministère des Affaires Sociales et on termine au ministère du Travail. Parce qu'ils sont tous responsables. Parce que dans le même temps où on nous fait croire qu'il y a une crise, vous avez bien vu les uns et les autres, que pendant le confinement de mars 2020 à décembre, Bernard Arnault a augmenté ses profits de 40 milliards, que les millionnaires français ont augmenté de 2 fois le budget de l'hôpital public. Donc ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de domination des puissants sur tous les autres, sur les salariés et sur les précaires. Donc à samedi prochain, merci.
Alors voilà, donc les informations sur la manifestation, c'est qu'elle est maintenue. Elle est maintenue, alors on faudrait probablement manifester à 4 mètres d'écart les uns des autres, mais ça veut dire qu'à moins nombreux, on peut remplir plus de rues. Bah oui, c'est logique. Ce sera donc une manifestation, on va dire, très ouverte, évidemment pacifique, bien sûr, et qui sera un signe que malgré le confinement qui nous est imposé, nous sommes encore capables de nous rassembler dans des bonnes conditions et de manifester, et notamment de manifester contre la répression, contre l'assurance, contre la réforme de l'assurance chômage. Et ces deux choses étant liées, je vous rappelle que nous allons nous focaliser justement sur ces luttes-là à mode d'emploi, parce que tant les luttes contre la fermeture des centres de santé en Seine-Saint-Denis et dans le 77 maintenant, qui crée un collectif également pour rejoindre la lutte, donc sur lesquels nous continuerons à vous tenir au courant. Et comme ces luttes contre la réforme de l'assurance maladie et comme les luttes contre la répression policière, on voit comment tout cela se rejoint. Nous voulons vivre dans une société qui est libre et solidaire et pas une société où chacun est individualisé sous le pied de la police. Ça n'est pas possible. Nous avons vraiment un choix de société à faire et nous savons très bien ce que nous voulons. Comme les communards, nous savons ce que nous voulons pas et nous avons une idée assez claire en fait de ce que nous voulons. Donc c'est pour ça que nous avons fait ce lien et que nous continuons à faire ce lien entre les mobilisations d'hier et d'aujourd'hui. C'est pour ça que nous continuerons à faire le parallèle entre se mobiliser pour la commune, se mobiliser pour la sociale et se mobiliser pour la sécurité sociale et contre la répression. C'est le même combat, il continue sous d'autres formes, mais c'est le même combat. Et c'est pour ça que nous pouvons aujourd'hui, encore 150 ans après, nous tourner vers les articles et les pensées des communards pour s'inspirer pour nos luttes d'aujourd'hui. Voilà, il ne faut pas oublier tout ça. Donc le rendez-vous de demain est donc à 14h à l'école militaire. Soyez nombreuses et nombreux, car nous avons besoin de tout le monde. Je ne pourrai pas être des vôtres à cause de ce que je vous ai raconté au début d'émission, que je suis un petit peu handicapé en ce moment, mais je serai de tout cœur avec vous et nous continuerons à vous apporter toutes les informations sur les luttes d'hier et d'aujourd'hui dans Secret de Fabrication. Voilà, à dans un mois et portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de lutter. C'était l'émission donc du 19 mars 1871 avec Bob au micro et Claude à la technique. Ça date un peu, mais on a pensé qu'on pouvait vous faire cette rediffusion, qui n'en est pas une.